Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Oui, cher monsieur, la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
rue. Les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est dans le mettre.
Là, on peut le mettre.
Vous savez pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fais le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire? Que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sans mes foutues par ange.
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est dans le mètre.
Là, dans le mètre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais je vais forcément toucher, je vais tomber en panne de pauvre. C'est du temps que je ne connais pas. C'est quand même curieux. Sans quoi, tu dis. Jamais, je ne peux pas.
Aujourd'hui, mercredi 6 juillet 2022, c'est la Sainte Hystérie antifasciste. Sainte Hystérie antifasciste est la sainte patronne de ceux qui, au mépris des électeurs, préfèrent taper sur les 89 députés d'un parti, fasciste certes, mais légitimement élu, que sur une extrême gauche qui, de Guy Mollet à Michel Rocard et de Gaston Defer à Jack Lang, n'a fait que démontrer son mépris pour la démocratie et les institutions républicaines qui la protègent. La démocratie. L'extrême gauche n'aime pas la démocratie et elle l'a prouvé depuis longtemps. Depuis au moins 1924, où le sinistre Édouard Herriot, à la tête du cartel des gauches, démontre sa férocité en décidant le transfert au Panthéon des cendres du terroriste Jean Jaurès, en réévaluant à la baisse les réparations que l'Allemagne, défaite en 18, devait à la France, prémisse d'une collaboration à venir dans les années 40, et ouais, et en reconnaissant officiellement l'URSS, car entre l'extrême gauche et le goulag, c'est une grande histoire d'amour. L'extrême gauche n'aime pas la démocratie. Comment ne pas voir dans le parti du socialiste Jules Moch et de Laurent Fabius, dans le groupuscule gauchiste de Mitterrand et de Strauss-Kahn et leurs lugubres alliés Thorez, Marché ou Roussel, non, pas Fabien Roussel, lui ça va. Comment ne pas voir déjà à l'époque les signes avant-coureurs d'une NUPES truffée d'islamo-gauchistes, de wokistes, de contrôleurs fiscaux, d'empêcheurs de réformer en rond, d'admirateurs du Venezuela, de terroristes végans et antinucléaires, voire antisémites? Comment ne pas voir déjà les dérives autoritaires, fielleuses, agressives, haineuses, antirépublicaines, poutiniennes et dictatoriales à venir d'un Jean-Luc Mélenchon, d'une Sandrine Rousseau ou d'un Olivier Faure, dont on sait de sources sûres qu'il passe toutes ses vacances en Corée du Nord? Non, stop, assez de cette France qui subit les assauts quotidiens de cette extrême gauche vraiment méchante et dangereuse. Assez du fascisme bashing. Assez de cette canonisation de Saint-Hystérie antifasciste. Les femmes et les hommes d'extrême droite sont des gens comme les autres. Toujours polis et bienveillants. Même pendant la guerre. Et ça, n'importe quel déporté vous le dira. Même dans les colonies. Et ça, n'importe quel Algérien passé à la GIGN vous le dira. Et puis, regardez comme ils présentent bien. Eux, au moins, ils viennent à l'Assemblée nationale avec une cravate. Aujourd'hui, mercredi 6 juillet, le soleil s'est levé à la braderie des Enfants Rouges. Des vieilles histoires s'étalent sur le trottoir. Il va se coucher dans le resto des hommes qui mangent seuls. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur campusville.com, le DAB+, et le saucisse pois chiche, mais ça dépend des jours. Ce soir, dans l'heure de le mettre, on vous propose la seconde partie du débat sur l'énergie organisé par l'association Indecosa CGT. Débat avec comme intervenant Gilles Balbastre, réalisateur, ou Yuri Dupont, député du PTB, et c'était le 17 juin à la Bourse du Travail de Lille. Le 17 juin, c'est-à-dire deux jours avant un second tour des législatives, donc il est fort possible que pendant ce débat, vous entendiez parler d'élections. C'était un débat animé d'ailleurs par notre camarade Seb de l'émission On passe au rouge, l'émission rouge du lundi à 19h sur campus. Mais pour le moment, c'est l'heure de le mettre.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
On va donner la parole à Yuri Dupont, donc, hein, je le rappelle, qui est député au Parlement wallon en Belgique. Donc, sur cette question, c'est toujours cette question qui nous tiraille. L'énergie est-elle une marchandise comme les autres? Alors, on imagine que tu vas répondre non comme les autres, mais de quelle façon?
Je vais mettre ma particularité belge, donc c'est intéressant de voir comment ça fonctionne dans les différents pays. Pour le coup, c'était tout l'intérêt de ma présence aujourd'hui. Pour le coup, en Belgique, ça n'a jamais été une entreprise d'État. C'était un monopole d'État, ça oui. Ça, effectivement, c'était une entreprise privée, mais monopolistique, qui était Electrabel. Début de la libéralisation, donc ça fonctionnait plutôt bien, parce que finalement, comme c'était un monopole, il n'y avait pas vraiment de logique de marché. Mais c'était une entreprise privée. Début de la libéralisation, comme chez vous, finalement, on scinde en trois, production, transport et distribution. Hein, donc on construit trois sociétés, trois entreprises, puisqu'on doit libéraliser différentes parties. En plus, là-dessus, vous allez peut-être rajouter la petite particularité belge, c'est qu'on aime bien s'emmerder entre flamands et wallons. Donc, du coup, il y a les nationalistes flamands, ah, mais nous, on veut le nôtre, le fédéral qui veut le sien, puis les wallons qui veulent le leur. Et donc, en plus d'avoir scindé en trois, on a aussi scindé les compétences selon les régions. Donc, on a, par exemple, la chance que le fédéral, donc l'État fédéral, est responsable des lignes à haute tension, pas des basses tensions, des lignes à haute tension, et de la grosse production d'électricité. Donc le nucléaire et le gaz dépendent du fédéral. Ainsi que par exemple les éoliennes offshore. Donc les éoliennes qui sont en mer du Nord, elles sont fédérales. Mais dès qu'elles sont sur Terre, elles sont régionales. Donc moi j'avais fait la blague tantôt, mais je vais la refaire. En fait, peut-être qu'avec la montée des eaux, il y a des éoliennes qui étaient flamandes qui vont devenir fédérales, on va savoir. mais donc on est sur une logique, si on peut encore appeler ça une logique, et l'énergie verte, elle est régionale. Donc par exemple, on a un autre problème, l'hydrogène est une nouvelle énergie verte, on ne sait pas qui va la gérer chez nous. C'est pas prévu dans les textes à la base. Donc on est dans une complexité institutionnelle en plus d'un libéralisme galopant, ce qui fait qu'il y a quand même des conséquences chez nous. Hein. Donc moi j'ai été comparé en janvier 2022 le prix de l'électricité en France et en Belgique, hein, donc à une moyenne de consommation d'un ménage qui est d'à peu près 3500 kilowatts, qui est à peu près la consommation moyenne. En France, en janvier, ça revenait à 680 euros. En Belgique, nous étions à 1750 euros. Voilà où on en est, nous. Ça n'a pas beaucoup d'importance, finalement. j'ai pris les deux. Donc effectivement, à titre personnel, moi l'année passée, j'étais à... Enfin, en 2020-2021, je pense, j'étais à peu près à 250 euros, je suis une famille de 5, et maintenant on est à 650 euros chez moi. Donc voilà, et ça c'est le... Et chez nous, il n'y a pas de volonté de blocage des prix. Il y a zéro volonté. Donc encore en France, d'après ce que j'ai compris, l'État a quand même bloqué un peu les prix. C'est pas le cas chez nous. Nous, on a un beau pays de libéralisation, on aime le libéralisme, et on n'a rien fait, finalement. Donc il n'y a eu aucun blocage à ce niveau-là. Et donc un bon exemple là-dessus sur la libéralisation, donc maintenant c'est Engie finalement est aussi actif à racheter la Electrabel historique en Belgique et a versé cette année 2 milliards de surprofits à sa maison mère en France et 1,2 milliard aux actionnaires. Donc pendant que nous on prend 1750 euros de facture d'énergie, en fait grâce à ça, ça leur permet de faire des surprofits parce que finalement l'énergie leur coûte pas tellement plus cher. La logique du prix de l'électricité, je suppose que c'est la même en Belgique, on le dire, en France pardon, mais donc c'est qu'en fait c'est l'électricité vient de plusieurs endroits, donc le nucléaire, on a aussi des centrales nucléaires, l'énergie verte, mais également finalement le gaz. Dans l'ensemble du package finalement, de production électrique, nous on a très peu de gaz, ça doit être 2-3%, on n'est vraiment pas grand-chose, mais c'est l'énergie qui coûte le plus cher à l'heure actuelle. Mais en fait, tout le tarif de l'énergie est basé sur celui qui est le plus cher. Donc en fait, le nucléaire ne coûte plus rien. Nos centrales nucléaires sont amorties depuis longtemps. Mais l'ensemble du tarif est basé sur l'électricité le plus cher. Donc celui qui produit 2%, c'est le prix de l'énergie. Donc en fait, il y a un surprofit énorme. Ils se font blinder d'argent finalement sur notre dos. 2 milliards de surprofit, 1,2 milliard aux actionnaires. Cet argent-là, évidemment, nous, on peut le reprendre pour alléger les factures d'énergie chez nous. Ouais, je voulais juste rajouter un petit truc, parce qu'on a beaucoup discuté aussi du transport. Il y a eu des questions sur le transport et je n'en ai pas encore abordé, donc je l'aborde très rapidement. Mais juste, il y a un élément dans le transport. Donc évidemment, on voit il faut tout au vélo ou tout à la voiture électrique. Hein, donc ça c'est un gros truc chez nous. Et nous, on a essayé d'identifier qu'il y a deux concepts là-dedans. Il y a l'éco-scepticisme, évidemment, qui existe, mais il y a l'éco-élitisme aussi. Et donc on a vraiment un mouvement d'éco-élitisme. Je vais prendre un exemple Je vais d'abord prendre un exemple parlementaire, puis un exemple concret sur le terrain. La semaine dernière, j'ai un camarade qui est député avec moi, qui me dit à moi, en fait, je me suis fait engueuler par un député d'écolo. Là. Pourquoi ? Ben, parce qu'ils sont heureux, en fait. Ils sont heureux de la montée de l'énergie. Les écologistes, ils sont sur un petit nuage. Les gens vont moins consommer. C'est magnifique. En fait, on discutait avec eux pour mettre un chèque énergie en place. Il dit, vous êtes fou, hein, vous êtes des traîtres à l'écologie, vous ne pensez pas à nos petits-enfants, etc., aux petits-enfants, aux générations futures, simplement parce qu'on essaye de diminuer. Et donc, ils ont une logique comme ça, et donc ils ne font rien, les écologistes, actuellement, pour lutter contre le prix, hein, parce que dans leur logique, c'est bien que ça coûte cher. C'est hyper bien que ça coûte cher. C'est ce que j'appelle de l'éco-élitisme. Parce que pour eux, évidemment, les députés en Belgique, c'est 8000 euros, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour les gens, évidemment, ça les impacte. Et donc, ils sont dans une logique d'écolitisme, dans la même logique sur le terrain. Par exemple, Bruxelles est une zone à basse consommation. C'est-à-dire que tu ne peux plus rentrer à Bruxelles avec des vieux véhicules. C'est de l'élitisme à mort. C'est-à-dire que maintenant, les Euro 4 sont même interdits à Bruxelles. Dans 2 ans, c'est même les Euro 6. Vous voyez où on en est. Donc, ça veut dire qu'il y a la moitié des véhicules belges qui ne peuvent plus rentrer dans Bruxelles. Et en fait, c'est de l'élitisme parce que demain, si tu as une grosse Hummer qui date de l'année passée, tu peux rentrer dans Bruxelles. C'est uniquement basé sur l'ancienneté des véhicules. Donc ils font de l'écologie, mais tu te coupes de toute la classe travailleuse. En fait, si tu fais de l'écologie sans lier les combats sociaux derrière, en fait, tu crées l'écoscepticisme. Évidemment, parce que tu es là, tu es en train de me... Moi, j'avais une titre service, donc c'est une femme de ménage, en France, une titre service, qui m'expliquait, moi j'ai des ménages à Bruxelles, moi j'ai une vieille Fiat 500, elle a 15 ans ma Fiat, mais je ne peux plus rentrer. Je ne peux plus rentrer dans Bruxelles, j'ai plus le droit d'y aller. Mais celui qui a une grosse Hummer qui pollue certainement 1000 fois plus que moi, lui il peut y aller. Et donc l'écologie, allez vous faire foutre. Et donc évidemment, l'éco-élitisme entraîne l'éco-scepticisme. Et c'est logique. Et donc c'est vraiment deux tendances sur lesquelles on veut nous lutter. Et donc c'est l'importance dans la sensibilisation également. Et donc un autre exemple intéressant sur les transports publics. Donc je trouvais que nous on prend beaucoup l'exemple de Dunkerque. On aime bien l'exemple de Dunkerque.
Les transports en commun sont gratuits à Dunkerque.
Ça, et c'est pas que gratuit. Donc moi j'ai été l'analyser. En fait, ils ont rajouté des fréquences, ils ont rajouté une disponibilité des arrêts. Et il y a un transfert modal de la voiture au transport en commun de plus de 50%. Donc il y a plus de 50% des nouveaux usagers qui ont abandonné la voiture pour les transports en commun. Mais ça c'est bien. En fait, tu mets. Et là, c'est vraiment allier l'écologie au social. Il faut toujours réfléchir sur cet aspect-là. Ça, c'est important. C'est tout l'aspect sensibiliser les gens. Est-ce que les gens, pour l'instant, si vous voulez juste amener en disant, ouais, il faut le marché public, bien sûr, on est tous convaincus que c'est le marché public, enfin, qu'il faut sortir du marché et qu'il faut aller vers l'entreprise publique. Mais si vous allez vers ça, vous oubliez tout l'aspect tactique. Les gens, ils n'en ont rien à foutre que ça soit le public ou privé. Ce qu'ils veulent, c'est que l'énergie, elle diminue. Nous, on sait très bien que si c'est privé, ça ne va pas diminuer. C'est toute la discussion qu'on a ici depuis tantôt avec les extraits, tout ça le démontre. Mais il faut avoir un aspect un peu tactique. Donc, évidemment, l'enjeu écologique, une certaine classe de la population un peu bobo, ça les intéresse, évidemment. Mais l'enjeu privé-public, tant que tu ne leur démontres pas, en fait, que surtout l'enjeu, c'est qu'on va diminuer les factures, et puis après, tu amènes, en fait, l'aspect public. Je trouve qu'il faut avoir toute une tactique. Nous, en Belgique, on a vraiment axé notre communication avant tout, alors on l'amène après dans le débat, mais avant tout sur la baisse de la TVA, sur l'énergie, sur le blocage des prix. Donc, c'est deux éléments très concrets pour les gens qui font directement une diminution du prix. Et après, tu peux, une fois que tu as acquis via finalement de la tactique, les gens, tu peux amener la logique de marché et commencer à discuter effectivement sur l'aspect public.
Merci beaucoup Yuri Dupont. On va donner la parole à Pascal Blindal de l'Union départementale CGT.
Au risque d'apparaître peut-être un peu provocateur, je dirais, c'est pas comme ça que j'aurais posé la question. L'énergie est-elle une marchandise? Simplement. Et non, c'est pas pour nous, pour l'Union départementale des syndicats CGT du Nord, ce n'est pas une marchandise, comme le transport n'est pas une marchandise. Comme la santé n'est pas une marchandise, comme la nourriture n'est pas une marchandise. Comme le logement n'est pas une marchandise. L'énergie doit avoir une valeur d'usage, c'est-à-dire doit répondre aux besoins et être débarrassée de toute valeur d'échange, à tel point qu'on peut la rendre gratuite. À partir du moment où on en produit suffisamment, elle peut devenir gratuite. Il y a d'ailleurs des programmes politiques qui préconisent que l'alimentation de base en énergie ne soit pas payante, comme pour l'eau par exemple, ne soit pas payante et qu'on commence à payer que lorsqu'on dépasse la consommation moyenne. D'où le fait que pour nous, ça ne peut pas être, même si, et je conçois bien la tactique que vient de développer notre camarade belge, il faut y aller par étapes, mais on peut se le dire ici entre nous, il ne peut pas y avoir de privé. Parce que le privé cherche à faire du profit. À partir du moment où une délégation de services publics, parce que celle de Dunkerque, elle fait du profit, même si pour les usagers c'est gratuit, il y a quand même une part de profit qui est payée par quelqu'un, notamment par l'usager, d'une autre manière, à un autre endroit. Donc il ne peut pas y avoir de privé. C'est pour ça que dans notre document d'orientation, c'est 100% public. Et la question n'est pas, du coup, tant comment on contrôle l'énergie, mais qui la contrôle au service de qui. C'est ça la vraie question. C'est qui contrôle. Pour nous, c'est une question, l'énergie, le transport, les prix, c'est une question de rapport de force. C'est une simple question de rapport de force entre travail et capital, entre les travailleurs et ceux qui possèdent les moyens de production et qui cherchent à en faire du profit. C'est en fait, une question de rapport de force entre eux et nous. Pour conclure, je dirais que c'est une question qui, à la fois on est un peu plus nombreux que d'habitude, mais en même temps on n'est certainement pas suffisamment nombreux, parce que c'est une question qui concerne toute la CGT, qui concerne tous les travailleurs. C'est une question éminemment politique, et notamment à la CGT, c'est dans son ADN ce genre de question, c'est dans l'ADN de la CGT, dans le cadre de la double besogne. Les revendications immédiates, certes, la baisse des prix, mais la revendication à long terme, c'est-à-dire le changement de société, l'abolition du système capitaliste. C'est ça aussi, à ça que participe ce genre de débat.
Dans ma première intervention, et on l'a vu dans le film, dans la précarisation, on a vu l'intervention d'un monsieur qui vivait sous le seuil de pauvreté, puisqu'il vit des minima sociaux. Si j'ai bien compris, il allait s'alimenter dans une association caritative pour l'alimentation. Quand la CGT dit que, et la DECOSA d'ailleurs aussi, dit que sur le logement, parce que tout est lié en fait, hein, le logement, le travail et la précarisation, tout est lié. Quand la CGT dit qu'elle réclame un SMIG à 2000 euros, on n'est pas déconnecté quand on dit 2000 euros. Pourquoi ? Il y a une quarantaine d'années, le logement, c'était 10% de tes revenus. Voilà, ça représentait 10% de tes revenus. Avec les charges, c'était 20%. Il est anormal aujourd'hui que votre logement et tout ce qui est l'eau, l'électricité, le gaz représente 50 à 60% de votre salaire. Alors quand vous êtes au SMIG et que vous avez déjà 60% de votre salaire qui part dans les charges, imaginez ce qui vous reste pour vivre après. Donc, quand on dit que le SMIG à 2000 euros devrait être une obligation, on est loin d'être déconnecté. Quand on parle des minima sociaux, pareil, il ne devrait plus y avoir de minima sociaux en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez parlé aussi de, on le voit souvent, enfin les camarades qui sont à la tribune ont parlé aussi souvent de entre l'offre et la demande, donc d'économie de marché entre l'offre et la demande. On a très bien compris que ce soit Engie, enfin tout ce qui est sur l'énergie, Engie, Total, pour l'essence par exemple, ils ont diminué l'offre par rapport à la demande, en sachant que quand même que la demande n'a pas changé. Ils ont réduit l'offre pour pouvoir augmenter les prix et faire des bénéfices supplémentaires. Je l'ai dit tout à l'heure, Total, par exemple, c'est 15 milliards d'euros l'année dernière, 15 milliards de bénéfices l'année dernière, et cette année-ci, pour les 5 premiers mois, 9 milliards d'euros. Donc on voit la spéculation qui est faite, et toujours sur le dos des travailleurs. Donc il va falloir que nous martelons, nous, à la CGT, et comme tu l'as dit, Pascal, même si on est un peu plus nombreux que d'habitude, et pas suffisamment, faire comprendre, c'est-à-dire aux travailleurs, mais aussi aux politiques, que ce n'est plus une situation vivable dans un pays qui est aussi riche que la France.
Oui. Ouais, rapidement, moi je voudrais rebondir à ce que Gilles disait tout à l'heure, par rapport à ce qu'on a vu, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui est en train de se faire ici. Tu disais on va droit dans le mur, mais on va droit dans le mur, enfin pour les consommateurs, pour nous les citoyens. Mais eux, ces grosses multinationales, ces gros capitalistes, tout le temps. Enfin, moi, enfin, qu'est-ce que, enfin, au bout d'un moment, il va falloir qu'il y ait une réaction de l'homme aux frontières, parce que eux, ils ont encore de longues vies devant eux. Parce que quand on voit même Total, enfin, dans le pétrole, maintenant qui est dans l'énergie, qui est dans les transports, enfin, eux, ils investissent partout. Donc, ils ont de longues vies. Enfin, je ne sais pas comment on va pouvoir y arriver, effectivement, si on n'arrive pas à avoir une prise de conscience vraiment forte de la population en France et partout en Europe et partout dans le monde, quoi. Parce qu'on a en face de nous, quand même, des puissants. Et dont les politiques qui ont le pouvoir aujourd'hui sont à leur botte. Donc, il va falloir qu'on... Hein ?
Il faut plus qu'ils soient à leur botte.
Ouais, ouais, bah oui, voilà. Ouais, ouais, mais bon. Aujourd'hui, combien...
Il y en a en Belgique, là, peut-être qu'il commence à en avoir en France.
Ouais, ouais, voilà.
Il faut reprendre la main.
Oui, 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 il y en a, mais c'est malheureusement pas encore la majorité. Ouais. D'ailleurs, au niveau des transports de Dakar, c'est les élus communistes qui ont porté le projet depuis le début, hein. Ah, ça, faut le rappeler aussi, parce que tel verglet, tu l'as oublié. Enfin, bon, voilà.
Merci. Donc, sur ces deux questions, la question de l'énergie pose la question, vu la particularité de ce qui est encore une marchandise, en tout cas pour l'instant, pose la question, bien entendu, des revenus. Et toujours, nous rappelle la caméra de Dunkerque, il y a l'enjeu de cette question de prise de conscience de ces enjeux. Qui veut intervenir là-dessus ?
Juste 30 secondes.
Yuri Dupont ?
Il y a un mécanisme en Belgique qui n'existe pas en France, qui est intéressant, c'est l'indexation automatique des salaires. C'est pas du rêve, hein, donc je veux juste dire que ça fonctionne pas totalement bien, puisque si vous voulez, l'indexation automatique des salaires fait que on estime un panier de la ménagère dans lequel on met tous les produits. Et donc notamment ils ont retiré les carburants parce que c'est pas écologique, donc on met les carburants dehors, merci les écolos. Bref, effectivement, le prix du pain augmente, etc., tous les salaires augmentent. Donc il y a eu 3 indexations des salaires cette année en Belgique, les augmentations. Mais évidemment, ne croyez pas que ça corrige tout, parce que une indexation, c'est... Voilà, la panier de la ménagère augmente de 2%, donc tous les salaires augmentent de 2%. Mais évidemment, 2% de 1 000 euros, ce n'est pas la même chose que 2% de 10 000 euros. Donc ça ne corrige pas le tir complètement du surcoût, mais ça fonctionne, ça existe. Il y a l'indexation automatique des salaires en Belgique. Pour contrebalancer, évidemment, les capitalistes, enfin les libéraux chez nous, ont mis la loi de 96, je m'adapte, qui est en fait une loi de compétitivité qui fait que les salaires en Belgique ne peuvent pas augmenter. En fait, on prend 3 pays voisins, parce qu'on doit être compétitif par rapport aux pays voisins. On est en Europe, mais bon, on est quand même tous des concurrents. Et donc, on prend les salaires des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la France, pas du Luxembourg, faut pas exagérer quand même. Et on regarde, en fait, grosso modo, où en sont les salaires. Ah ouais, bon, comme en France, il n'y a pas l'indexation, les salaires sont un peu plus bas. Donc, on peut maximum augmenter les salaires. Et donc, la dernière fois, c'est 0,4% d'augmentation maximale qui était autorisée. Et ça veut dire que même dans les secteurs où, qui font du... profit, hein, tu travailles à Total, hein, tu es syndicaliste à Total, tu peux te dire on va faire augmenter les salaires, quoi, c'est bon, il gagne assez d'argent. T'as pas le droit. T'as légalement pas le droit de faire augmenter les salaires parce que t'as une loi de l'État fédéral qui t'interdit. Donc voilà, on a évidemment l'indexation qui nous fait augmenter naturellement nos salaires, mais on a aussi une loi qui nous interdit de négocier nos salaires par pôle d'activité. Je voulais juste rajouter deux autres éléments. Il y a Dunkerque qui est un très bon élément, mais il y a aussi le ticket QMATS en Autriche qui a été mis en place cette année, qui est un ticket à 9 euros qui permet de prendre tous les transports en commun en Autriche à 9 euros par mois, ou je ne sais plus. Enfin bref, en tout cas, c'est tous les transports en commun, que ce soit le tram, le machin. Et l'Allemagne a fait un ticket mais provisoire ici pour les grandes vacances, donc pendant 2-3 mois, d'un ticket à 3 euros qui permet de circuler dans toute l'Allemagne, tout transport en commun à 3 euros. Donc il y a d'autres exemples positifs au niveau de la mobilité.
Ouais, Thierry Lacherie, des 10.
Peut-être, mais pour amorcer peut-être la transition vers ce qui va suivre, de quelle énergie on a besoin. On voit que l'énergie, ça conditionne la vie des particuliers, mais c'est aussi les entreprises qui sont conditionnées par les coûts de l'énergie. Récemment, on voyait une entreprise de bois dans l'ouest de la France, de mémoire. Compte tenu de l'augmentation du prix d'électricité, le gars, le patron, a dit stop, j'arrête mon contrat d'électricité il a posé un groupe électrogène. Enfin, alors que l'électricité, elle est relativement bien décarbonée en France, puisqu'on a une base de production à hauteur de 70% de nucléaire, le petit patron de la PME, là, il vient produire sa propre électricité avec de l'essence. Et donc, sans besoin de reprendre en main ces questions d'énergie, et pour permettre aussi à la puissance publique d'investir sur la production d'énergie décarbonée. Une centrale nucléaire, c'est excessivement cher à construire, c'est de l'investissement de long terme. Son retour sur investissement, on va parler comme ça, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines d'années. Quand vous construisez une cogénération, on va faire de l'électricité à partir du gaz, on est sur quelques années. Et donc on voit bien que le capital, lui, il va investir non pas sur l'énergie nucléaire ou d'autres types d'énergie, mais et par exemple l'éolien, mais avec ses propres propriétés hein, qui sont aléatoires. Parce que l'éolien, ils investissent dessus parce que c'est subventionné en fait. Et donc, il y a besoin qu'on se réapproprie ces questions énergétiques et que les usagers reprennent la main sur les outils de production et de transport et de distribution de l'énergie en France. Et que ce soit le gaz.